sauvé. Comment pouvez-vous résumer l'an 1 du président Trump?
Je pense qu'on peut parler de la remise en cause de l'état des droits et des libertés, la déstabilisation de l'alliance des grandes démocraties, la valorisation du nationalisme, le démantèlement des accomplissements de Barack Obama et la valorisation de l'utilisation de la force plus que de la diplomatie.
Mais pour les Américains, la santé de l'économie de leur pays est capitale. Et selon les derniers chiffres, l'économie se porte bien. Le taux de chômage est désormais de 4,2%, son plus bas niveau depuis 2001. Lors des deux derniers trimestres, l'économie a atteint l'objectif de 3% de croissance visé par l'administration Trump. Wall Street bat record après record depuis l'élection et a rapporté des gains de plus de 5000 milliards de dollars aux investisseurs depuis le 8 novembre dernier. Brett Bruen, le président Trump peut-il s'attribuer le mérite de ses bonnes performances?
Pas du tout. En fait, la plupart de ces changements positifs viennent des politiques de son prédécesseur. Et en fait, il est trop tôt pour dire que ce que Trump a fait réellement a eu un impact. On peut même dire peut-être que l'impact était assez négatif. Et pour l'instant, je crois qu'on est toujours dans les bonnes directions que l'ancien président a mises en place.
En tout cas, certains vous diraient que quand même, il veut créer un bon climat pour les affaires, pour les hommes d'affaires. Donc, peut-être comme tout autre politicien, comme tout autre président, certains vous diraient que pourquoi pas, pourquoi ne peut-il pas s'attribuer ce mérite. En tout cas, une première année riche en événements pour le président. Nous aborderons le cahier international tout à l'heure, mais sur le front intérieur, il y a eu le démantèlement plus d'une fois avorté de l'Obamacare, les revers multiples pour le décret migratoire vu comme anti-musulman, le limogeage de James Comey comme directeur du FBI, les affrontements néo-nazis de Charlottesville, la vague d'ouragans meurtriers qui a touché le Texas, la Floride et Porto Rico, le mouvement de protestation, vous le disiez tout à l'heure, des joueurs de la NFL, la Ligue de foot américain contre les violences policières visant les Africains-Américains en posant un genou à terre pendant l'hymne national, sans oublier la récente attaque terroriste à New York et cette nouvelle fusillade insensée, hein, cette tuerie dans une église d'une petite bourgade du Texas. Ngemi Yalengi, en tant que supporter de Donald Trump, vous venez d'entendre hein, les critiques déjà. Alors vous, que retenez-vous de cette première année de mandat de Donald Trump?
Ben, ces critiques-là ne vont pas manquer. Il faut que nous nous rappelions comment Donald Trump a gagné les élections. Parce que tout le monde s'attendait à ce que Hillary Clinton passe. Il y avait même des soi-disant prophètes qui prophétisaient que Dieu leur a dit que Hillary Clinton allait gagner.
Pratiquement tous les instituts de sondage.
Exactement. Ouais. Mais nous autres, nous avions, dès que Brexit était passé à Londres, et quand Donald Trump avait battu tous les républicains durant les élections primaires, nous avions pensé qu'il allait gagner, malgré qu'il ne passera pas avec un grand pourcentage. Donc, lui, il est un homme qui n'a jamais fait la politique, il est businessman. Et puis, ce qu'il a promis aux républicains qui avaient voté pour lui, c'est ce qu'il a voulu faire. Ouais. L'une des choses, bon, c'est qu'il voulait démanteler, comme vous venez de le dire, Obamacare, par exemple. Alors, mais son focus, comme il l'avait dit, c'est America First. America First, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aimer sa politique. Évidemment, il n'y a pas un président qui est à 100% juste ou bien il va faire tout d'une manière parfaite. Donc, nous lui accordons ce temps, comme on dit toujours, pour qu'il puisse acclimater à la politique interne des États-Unis. Donc, alors, nous allons voir le changement bientôt.
D'accord. Emilio Viane, l'enquête sur les ingérences présumées de la Russie dans la dernière présidentielle américaine continue-t-elle d'empoisonner la présidence de Donald Trump, d'après vous?
Oui, naturellement. Et on a à peine commencé. C'est-à-dire que maintenant, nous pouvons voir les premières accusations de la part du procureur Mueller contre, par exemple, le directeur de la campagne de Trump, Manafort, et d'un conseiller Papadopoulos et d'autres. Et on pense que c'est seulement le commencement. On a commencé avec Manafort parce que probablement il va pacter avec le procureur pour sa liberté ou une peine pas très grave en échange d'informations et d'aider le procureur dans sa investigation dans la Maison Blanche, dans la famille de Trump. C'est-à-dire que c'est une question qui va continuer beaucoup de temps. On parle naturellement que Trump pense de démissionner le procureur Mueller, mais ça serait pratiquement un suicide, n'est-ce pas? Parce que il donnerait une raison très importante pour tout le monde de penser qu'il y a beaucoup à cacher dans ses relations avec la Russie, particulièrement d'un point de vue économique. Nous ne devons pas nous oublier que Trump est un homme d'affaires, qu'il soit vraiment si important comme il dit, c'est autre chose, mais c'est un homme d'affaires qu'il pense à utiliser la Maison Blanche, le fait qu'ils sont à la direction du pays plus riche du monde, pour préparer pour lui-même, sa famille, ses entreprises, la possibilité d'inversion, particulièrement avec des pays très importants comme la Russie et la Chine.
Mais Donald Trump, le président, a écrit mille et une fois sur Twitter qu'il n'y a absolument rien, qu'il n'y a aucune preuve. Mais maintenant, l'équipe d'Hillary Clinton et le Comité national des démocrates sont également accusés d'avoir financé un dossier sur Donald Trump, avec apparemment la complicité de Russes, de responsables russes, lors de la campagne présidentielle, un dossier qualifié de faux, mais qui constitue une pièce maîtresse des enquêtes du Congrès sur les ingérences présumées de la Russie dans la présidentielle. Et puis il y a également Donna Brazile, ex-présidente par intérim de ce Comité démocrate national, qui affirme dans un livre, vient de paraître, que le Parti démocrate était sous la coupe d'Hillary Clinton avant même qu'elle ne remporte l'investiture du parti au détriment de Bernie Sanders. Brett Bruen, faut-il également faire la lumière sur toutes ces accusations?
Bien sûr, il faut faire la lumière sur toutes les préoccupations, s'il y en a d'évidence qu'on pourrait présenter, qu'il y en a des actions illégales. Bien sûr, il faut également considérer ce que les démocrates ont fait, comme les républicains. Mais il est important que nous allons considérer que l'investigation de la campagne de Trump n'était pas illégale. Ça fait partie de faire des recherches sur l'opposition. Et bon, s'il y en a des critiques en termes de des règles du parti démocrate, la madame Brazile a dit que ce sont pas des actions illégales. Bien sûr, il y a eu certains accords que la campagne de Clinton a reçu, mais dans ces mêmes accords, il y a des conditions qui vont accorder aussi à la campagne de Sanders. Alors, pour l'instant, il y a beaucoup d'énergie, certaines critiques, mais pas assez d'évidence.
Et on sait également que les élus républicains ont également ouvert deux enquêtes parlementaires, l'une pour faire la lumière sur la décision du FBI et du ministère de la Justice de ne pas poursuivre Mme Clinton dans l'affaire de l'utilisation d'un serveur personnel pour l'envoi de courriels alors qu'elle était secrétaire d'État, l'autre sur la vente approuvée en 2013 par l'administration Obama du groupe minier Uranium One à la société russe Rosatom. Cette décision prise après que le groupe minier eut fait apparemment plusieurs dons à la fondation Clinton avait eu pour conséquence de mettre entre les mains de Rosatom 20% des stocks d'uranium américain. Qu'en pensez-vous, Ngemiya Alingui, rapidement?
Bien évidemment, moi je pense que ceux qui défendent pas Barack Obama, mais Hillary Clinton, ils sont toujours à la recherche de quelque chose pour accuser Donald Trump. Mais rappelons-nous, encore une fois, rappelons-nous que Donald Trump a gagné les élections. Et les Américains avaient voté. Alors, selon les investigations préliminaires, aucun Américain n'a été influencé par la Russie. Tout ce qu'il cherche de savoir, c'est que est-ce que la Russie avait mis sa main dans la pâte des élections du point de vue
au-delà de l'influence, c'est-à-dire de manipuler même les votes.
Voilà. Hein? Voilà.
Et ok. Alors deux commentaires Facebook à présent. Mamadou Sadio Ba, Conakry, Guinée, qui nous dit Donald Trump est une honte pour les Américains et il est une vraie menace pour la paix dans le monde. Très dur. Le commentaire de Mamadou, archiduc Théodore d'Ndjamena, le bilan du président Trump est partiellement positif par rapport à ses projets électoraux migratoires de lutte contre les armes nucléaires des pays qualifiés d'États voyous comme la Corée du Nord et l'Iran. Et voilà. Et puis évidemment, des élections locales ont été tenues cette semaine, notamment en Virginie, dans le New Jersey, dans la ville de New York, des élections remportées par les démocrates aux dépens évidemment des républicains. Pourquoi ces scrutins ont-ils pris l'allure de référendum contre le président et sont-ils en avant-goût des élections de mi-mandat l'an prochain, d'après vous, Emilio Viano, rapidement?
Oui, il a été un triomphe pour les démocrates parce que normalement, dans le cas de cette élection, il n'y a pas beaucoup de participation. On doit prendre en compte qu'aux États-Unis, il n'est pas obligatoire de voter. Et dans cette élection, en Virginie, par exemple, 58% des électeurs sont allés à voter, quand normalement, il y a moins de 40%. Alors, c'est vraiment une démonstration de la résistance de beaucoup des Américaines à la politique de Trump. C'est un triomphe pour les démocrates parce que la Virginie est un État assez conservateur. Et il y a une révolution, par exemple, dans le Congrès de l'État de Virginie qui a été contrôlé par les républicains pendant des décennies. Il y a 66 députés républicains. Maintenant, pourrait être que les démocrates vont à contrôler la législature de la Virginie et même le gouverneur, le vice-gouverneur, le procureur général sont démocrates. C'est-à-dire que et même dans l'État de New Jersey et naturellement dans d'autres élections. Vraiment, c'est un message aux républicains et sans doute les républicains sont en train de penser qu'est-ce qu'on va faire parce que l'année prochaine, ce sera le tour de députés fédéraux. Ils pourraient perdre l'élection ou réélection, ça qui est clairement c'est une préoccupation pour eux.
Ouais. En même temps, il faut dire que Donald Trump n'a pas remporté lors de la dernière présidentielle les États de Virginie et New Jersey. Ouais. Et la ville de New York, évidemment, fait partie de l'État de New York qui vote pratiquement tout le temps démocrate. Voilà, n'allez nulle part ailleurs, s'il vous plaît. Washington Forum revient après cette pause. Aristide, de retour avec vous dans ce Washington Forum. Donald Trump, un an après son élection, abrogation de l'Obamacare, mur entre le Mexique et les États-Unis, réforme fiscale, fin du libre-échange, un an plus tard. Où en sont les promesses de Donald Trump? Le point avec Didi Dico.
Il y a un an, Donald Trump a créé la stupéfaction en gagnant l'élection présidentielle, une victoire à laquelle, semble-t-il, peu de gens s'attendaient.
Je m'adresse à tous les républicains, aux démocrates et aux indépendants américains. Il est temps pour nous de nous rassembler pour former un peuple uni.
Lors de son investiture, Donald Trump s'est engagé auprès de la classe ouvrière à laquelle il doit largement sa victoire.
Désormais, la base électorale républicaine est constituée de personnes ayant voté pour Trump. Cet électorat considère une attaque sur le président Trump comme une agression personnelle.
Le président a toutefois connu un succès important dès le début de son mandat avec la nomination du juge Neil Gorsuch à la Cour suprême. Il a aussi reçu des éloges pour sa gestion de l'économie marquée par une expansion du marché boursier et ses victoires militaires contre le groupe État islamique. Mais Donald Trump et ses alliés ont aussi essuyé des revers avec le rejet par le Sénat de la nouvelle loi sur la santé proposée par les Républicains. Cet échec a considérablement retardé le programme du président. Les nombreux tweets du président ont aussi constitué une distraction face aux véritables enjeux. De même que ses propos controversés sur la manifestation violente de Charlottesville en Virginie.
Il y a de très bons individus dans les deux camps qui se sont opposés.
Le style tranchant du président lors de ses multiples rassemblements a servi à galvaniser son électorat et la plupart des républicains au Congrès ont pris note.
Le fait que les présidents se maintiennent à un taux d'approbation allant des 35 à 38% empêche les républicains de les défier ouvertement.
Cependant, les récentes inculpations judiciaires dans l'enquête sur l'ingérence russe menacent de ternir la Maison-Blanche et ravivent les inquiétudes sur les orientations futures du président. Il va sans dire que l'élection de Donald Trump constitue un tournant dans la politique américaine, mais son impact sur les États-Unis et le monde reste à ce jour une incertitude.
Et nous retrouvons nos invités, le professeur Ngemiya Alenghi, historien d'origine congolaise. Il a notamment enseigné à City College de New York. Il est un supporter du président Trump, de la capitale américaine Brett Bruen, président de Global Situation Room, également à Washington, Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University de Washington. Emilio Viano, très rapidement, réaction aux promesses non tenues jusqu'ici. Risque-t-il d'être lâché par son électorat si ces promesses ne sont pas tenues d'ici 2020, murs, etc.
Oui, naturellement. Et c'est la préoccupation plus importante pour Donald Trump, parce qu'il pense, je pense, plus de tout sur sa réélection. C'est le seul président que je sais que le même jour de son inauguration a aussi manifesté sa intention de commencer sa campagne de réélection formellement. Et dans ma opinion, il n'a pas maintenu sa promesse de ce discours excellent qu'il a fait à New York après sa élection il y a un an, quand il a parlé de l'unité des Américains. C'est pas ça, il n'a fait rien de ça. Il a vaincu l'élection en profitant de la division et en profondissant la division. Il continue à le faire parce qu'il sait que c'est la division qui il y a vaincu l'élection. Il va à vaincre peut-être l'élection la prochaine fois. Et c'est le danger dans lequel nous nous trouvons, que nous avons un président qui profite des divisions des Américains, qu'il ne fait aucun effort d'unité nationale et qu'il présente un effort très, très grand de détricoter, effacer, démolir l'héritage de Barack Obama et de démontrer la profondité du racisme.
Ici parce qu'on a d'autres aspects à aborder, la politique internationale notamment du président Donald Trump justement a rencontré ce jeudi à Pékin son homologue chinois Xi Jinping, troisième étape d'une tournée marathon en Asie. Il a beaucoup été question du dossier nord-coréen, mais après avoir menacé de détruire la Corée du Nord en septembre dernier, le président Trump croit désormais qu'il existe une solution. Qu'en pensez-vous, Brett Bruen, brièvement?
Je crois que pour l'instant, il va essayer la diplomatie, il va essayer de mettre plus de pression sur la Chine et on verra. Mais le problème, à mon avis, avec le Corée du Nord et notre président, c'est que n'importe quelle action, même une petite action de la part des Nord-Coréens, pourrait produire une réponse assez agressive et mal considérée de la part de la Maison-Blanche et de notre président. Ouais.
Voilà. Qu'en est-il de l'Afrique, Ngemi Alenghi? Un an après son élection, Donald Trump a-t-il une vision claire de l'Afrique, d'après vous?
Oui, mais c'est une vision qui est en train d'être formée. Encore, il faut que nous nous rappelions que Donald Trump n'a jamais fait la politique. Ça, c'est, il vient de commencer à faire la politique. Mais il a des gens autour de lui, notamment l'ambassadrice Nikki Haley ici à New York, qui sont en train de façonner cette politique pour l'Afrique. Donc nous devons attendre. Il y a des signes, des bons signes, mais nous devons attendre. Voilà pourquoi il faut que nous soyons un peu patients envers Donald Trump.
Vous-même, vous êtes congolais, voilà une question appropriée pour vous. Hein. Oui. Il a dit plus d'une fois suivre la situation en RD Congo. Ce pays traverse évidemment une nouvelle crise politique après la non-tenue des élections en 2016. Oui. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies, vous venez de le dire, Nikki Haley, était récemment à Kinshasa. Oui. Le président a été critiqué pour le peu d'intérêt montré pour l'Afrique. Mais pensez-vous que la RDC est devenue un des points d'articulation de sa politique africaine?
Oui, évidemment, parce que l'univers entier comprend que la RDC a cette économie, donc cette stratégie, l'importance stratégique du point de vue du futur même, de l'industrie mondiale. Et puis, il y a tellement, comme Nikki Haley a dit à Kinshasa, il y a tellement de violences, il y a tellement de viols contre les femmes, il y a tellement des enfants soldats, il y a tellement de gens qui sont en train de mourir, que Nikki Haley s'est bien prononcée pour qu'il y ait un changement. Parce que cette importance stratégique de la RDC pour l'industrie mondiale, et c'est ça que Donald Trump prend en considération, évidemment, le monde entier. Voilà pourquoi c'est très important pour la politique, même africaine, même la politique mondiale des États-Unis, que la RDC devienne un pays stable, où il y a une démocratie et puis où que tout marche sur tous les droits humains.
Alors, le président avait également promis d'en finir avec le groupe État islamique. Après la reprise de la ville syrienne du Raqqa en octobre dernier, Donald Trump devait dire que la fin du califat de ce groupe était en vue. Brett Bruen, est-il en train de gagner la guerre contre le Yi, d'après vous?
Je crois que pour l'instant, ce qui se passe en Syrie, en Irak, est en bon chemin. Néanmoins, nous sommes toujours, il existe toujours un risque assez élevé que l'État islamique pourrait se regrouper, et surtout, à mon avis, sur l'Internet. Et j'ai assez de peur en termes de voir des attaques comme on a vu à New York et ailleurs dans le monde, où il y en a des gens, même les gens qui ne sont pas forcément connectés directement à l'État islamique, mais ils ont vu une vidéo, ils ont vu une guide qui l'ont mis sur l'Internet, et ils essaient de profiter de l'image de l'État islamique pour prendre en main les actions, leurs inquiétudes, leurs frustrations avec leur vie et faire ce type d'attaque.
C'est une année évidemment très chargée, on ne peut pas tout aborder, Ngemi Alenghi, n'est-ce pas? Alors, mais je voudrais terminer avec vous, nous l'avons donc entendu, le programme électoral du président a pris du retard, il est devenu le président le plus impopulaire des États-Unis, mais pensez-vous qu'il va pouvoir renverser la vapeur et peut-être être réélu en 2020, qu'en pensez-vous?
Ben, ça c'est typiquement américain, qu'un président peut être impopulaire et puis... Lui, après, il devient populaire. C'est-à-dire que cela va dépendre de ce que Donald Trump va faire d'ici ces 3 ans. Ça va nous donner quand même la température de ce qui va se passer après aujourd'hui, parce qu'il peut devenir populaire. Voilà, c'est nous devons attendre donc ce qui va se passer après.
Voilà, point final à ce Washington Forum. Merci à nos invités et à mes collègues de Washington et New York. Et merci à...
voiture, villa, beaucoup de relations, connaissances. Fais-moi confiance, fais-moi confiance.